Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue sur la radio graphite 94.9, la radio communautaire de l'UTC. Bienvenue en ce vendredi pour les Échos de l'innovation, la nouvelle émission, cette fois qui parle de science et de société. Aujourd'hui, un sujet assez intéressant, puisqu'on va parler demain des insectes dans nos assiettes. On le sait, c'est assez important avec les sujets d'écologie. Est-ce que vous seriez capable d'abandonner votre régime, qu'il soit vegan ou non, que vous consommiez beaucoup de viande ou non, pour des insectes? C'est aujourd'hui la question auquel on va essayer de répondre, on va discuter pendant une heure autour de ça. Je suis accompagné de 7 autres étudiants de l'UTC, on va faire un tour de table pour se présenter. Salut Mohamed.
Salut, moi je me présente, je m'appelle Mohamed Tahiri, je suis en TC1 et j'aimerais bien aller en ingénieur informatique.
Bonjour à tous, moi c'est Thibaut, donc je suis en troisième année d'études à l'UTC et je suis actuellement dans la branche génie urbain.
Bonjour à tous, c'est mon deuxième semestre à l'UTC et je suis ingénieur mécanique.
Bonjour, je m'appelle Daniel Degos, je suis dans les cinquième année de génie de procédé à l'UTC. J'espère une bonne transmission à vous.
Bonjour à tous, Simon, je suis également en troisième année à l'UTC dans la branche mécanique.
Bonjour à tous, je m'appelle Léa et je suis en première année post-bac à l'UTC.
Et bonjour à tous, je m'appelle Clément et je suis en première année de cycle ingénieur à l'UTC et en branche génie urbain.
Et enfin, bonjour à tous, moi c'est Quentin et je serai votre présentateur pour cette émission. Donc comme vous avez pu le voir, nous sommes tous étudiants de l'UTC. En plus, on a la chance d'être accompagnés de 2 étudiants étrangers, Daniel qui vient du Brésil et Can du Vietnam. Donc ils auront l'occasion de parler de tout ça dans la suite de l'émission. Donc pour vous présenter rapidement de quoi on va parler d'acceptabilité, de considération des animaux, de l'aspect écologique, et nous avons même la chance d'avoir une interview d'une doctorante de l'UTC, donc je laisserai Simon nous en parler un peu plus tout de suite, et on va commencer sans plus tarder avec la première partie.
J'ai un petit creux.
Et moi alors, je pourrais avaler un éléphant.
On a épuisé le stock d'éléphants.
Y'a de l'antilope?
Non.
De l'hippo?
Non. Écoute, petit, si tu vis avec nous, il va falloir t'adapter. Hey, le coin n'est pas mal pour une bonne potée de larves.
Ah, qu'est-ce que c'est?
Une larve bien grasse.
Oh, quelle horreur.
C'est délicieux, on dirait du veau.
Un peu gluant, mais appétissant.
Elles sont comme je les aime. Moelleuse, bien fraîche, bien craquante.
Tu finiras par t'habituer.
Je vais te dire, petit, c'est ça la vraie vie. Pas de loi, pas de responsabilité. Ouh, une petite bien crémeuse. Et le mieux de tout, pas de soucis. Qu'est-ce que t'en dis?
Eh ben, Hakuna Matata.
Donc, vous venez sans doute de reconnaître cet extrait du Roi Lion dans lequel Simba, carnivore par nature, se retrouve à manger des larves et autres insectes sur les conseils de Timon et Pumba. Et donc avec l'équipe d'ingénieurs aujourd'hui, on a pu s'empêcher de transposer un peu cette situation, ce dessin animé à notre société actuelle. Parce que comme Simba, on s'est dit qu'on consomme de la viande un peu sans foi ni loi. Mais les enjeux climatiques et la croissance démographique nous invitent à remettre en cause cette pratique. Donc il s'agit à présent de réfléchir à une adaptation, comme l'évoque Timon. Alors du coup, la question qu'on a décidé de se poser, c'est: pourra-t-on se permettre encore longtemps de ne pas consommer de potées de larves ou autres insectes en tout genre? Cette question, des chercheurs du monde entier se la posent et on tentera d'y apporter une réponse lors de cette émission. C'est vrai qu'au premier abord, dans nos sociétés occidentales, la consommation d'insectes comestibles, c'est vraiment pas quelque chose de très populaire. Donc, d'ailleurs, je vais introduire tout de suite le terme d'entomophagie qui signifie la consommation d'insectes comestibles. Mais peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui sur Terre, il y a 2 milliards de personnes qui mangent quotidiennement des insectes et pour qui donc c'est un acte banal et qui se fait au même titre que manger de la viande et du poisson. Donc je pense notamment à l'Asie, l'Afrique ou encore l'Amérique latine. Historiquement aussi, d'après les observations scientifiques réalisées sur des mâchoires fossilisées des ancêtres des humains, on a pu prouver qu'il y avait des traces qui témoignaient d'un régime insectivore. Et enfin, les insectes, par leur biomasse et par leur abondance dans les écosystèmes, sont donc une source très intéressante d'alimentation. Et si on veut trouver des exemples plus chronologiquement proches de nous de consommation d'insectes, on peut penser aux Grecs et aux Romains qui se délectaient à leur époque de larves de coléoptères, de criquets enrobés dans du miel ou encore de cigales. Au Moyen-Âge aussi, en France, les insectes étaient très populaires avec les draperies et la production de soie. Il y avait effectivement les vers à soie qui étaient dégustés. Mais donc aussi, vous avez constaté aujourd'hui que cette consommation, elle est largement tombée dans l'oubli, hein, et ce, depuis plusieurs siècles. Et d'après plusieurs études, en fait, ça s'explique tout simplement parce qu'on a eu un mouvement un peu d'aseptisation de la société, avec une peur des microbes, des antibiotiques, et puis le fait que les insectes sont considérés comme... sont associés à la saleté, ils sont nuisibles... Et donc, ils sont même associés à l'image de vecteurs de maladies. Il y a une deuxième raison, un peu peut-être, de cette disparition de la consommation d'insectes, c'est le fait que ça fait un peu penser au côté primitif, un peu incivilisé. La consommation d'insectes, c'est peut-être une pratique de gens qui sont dans un état de pauvreté, donc incivilisé, comme je le disais. Mais on peut donc s'intéresser finalement aux raisons de cette disparition et se demander si elles sont fondées. Et donc pour ça, je vous propose tout simplement de rentrer dans le cœur de l'émission avec Simon qui s'est mis en quête de réponses directement à l'UTC.
Donc c'est vrai qu'à l'UTC, on a la chance d'avoir de nombreux étudiants qui sont en train de se faire former pour devenir ingénieurs, mais on a aussi une grande partie centre de recherche avec beaucoup de professeurs qui sont à la fois chercheurs, mais aussi des étudiants qui effectuent leur doctorat et leur thèse au centre de recherche de l'UTC. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer une étudiante qui réalise actuellement une thèse sur le sujet des insectes et donc qui va tout de suite pouvoir nous en parler.
Bonjour Madame Elage, merci d'avoir accepté de venir répondre aujourd'hui à nos questions pour une émission sur la radio Graphite. Notre émission intitulé « Les échos de l'innovation » traitera aujourd'hui des insectes dans nos assiettes et cherchera à répondre à la problématique suivante. Pourra-t-on se permettre encore longtemps de ne pas consommer d'insectes ? Donc vous êtes une doctorante à l'Université technologique de Compiègne et vous réalisez actuellement votre thèse sur le sujet des insectes dans notre alimentation. Du coup, je vais vous laisser vous présenter votre parcours et puis brièvement votre recherche et le thème de votre thèse.
Bonjour, d'abord merci de m'avoir accueilli dans cette émission. Donc, je suis Rachel Elage, libanaise. Je suis doctorante à l'UTC dans le domaine de génie des procédés agro-industriels. Donc, moi, à la base, je suis ingénieure agronome spécialisée dans les sciences et technologies alimentaires. Et dans ma thèse, je travaille sur l'application des technologies émergentes pour intensifier les procédés de transformation des insectes comestibles. Donc, précisément, je travaille sur les vers de farine. Et donc pour générer des produits destinés à l'alimentation animale et humaine. Donc mon travail porte sur l'intensification de toutes les étapes de transformation des insectes, de la réception jusqu'à l'obtention de produits finaux, en appliquant des méthodes émergentes, qui sont d'ailleurs moins énergivores que les méthodes conventionnelles appliquées, et qui améliorent l'extraction en aval des molécules intéressantes, telles que les protéines, les lipides et aussi les chitines, tout en générant des produits de meilleure qualité, et dans les normes, de point de vue charge microbiologique par exemple, et aussi qui sont plus attrayants de point de vue couleur, en évitant le brunissement ou bien le noircissement des produits finaux, ce qui les rend par exemple le plus acceptable par les consommateurs.
Très bien, et du coup, pensez-vous, pour reprendre un peu la problématique du coup de notre émission qui va être, est-ce qu'on va prochainement avoir des insectes dans notre consommation ? Est-ce que vous pensez que les insectes feront bientôt partie de notre consommation quotidienne ? Et si oui, d'ici combien de temps pensez-vous que cela pourrait arriver ?
Oui, effectivement, avec la croissance démographique, ces dernières années, la population mondiale a triplé depuis 1950. et on est estimé atteindre 10 milliards d'ici 2050. Donc pour cela, c'est indispensable de trouver des sources de protéines alternatives autres que la culture et les animaux d'élevage. Parce qu'en fait, la terre, elle est limitée par les surfaces cultivables dans le monde et même ces surfaces diminuent chaque jour en raison de l'urbanisation. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas cultiver beaucoup plus qu'on fait aujourd'hui. Et concernant les animaux, déjà la plupart sont élevés de façon intensive. Et élever donc des animaux davantage signifie plus de surfaces cultivables qui sont dédiées à l'alimentation animale au lieu de l'alimentation humaine directe. Donc pour cela, les insectes comestibles, du fait qu'ils contiennent jusqu'à 60% de protéines et qu'ils ont un impact environnemental minimal, sont une des solutions envisagées pour lutter contre le besoin mondial en protéines. Et sur ce sujet, la Commission européenne, entre 2021 et 2022, donc très récemment, elle a donné un avis favorable sur la mise en marché de 3 insectes comestibles destinés à la consommation humaine, qui sont le ver de farine, le grillon domestique et le criquet migrateur. Et aussi, elle a autorisé l'utilisation des produits dérivés des insectes pour l'alimentation des animaux, qui sont omnivores, bien sûr, tels que le porc, les volailles, les poissons et aussi les animaux domestiques. Et aujourd'hui, on peut trouver des produits à base d'insectes qui sont commercialisés déjà en Belgique et aux Pays-Bas. Et je pense que très prochainement, ça sera le cas en France. Donc, ça sera une question de quelques mois.
Du coup, aujourd'hui, on sait que l'impact, les aspects environnementaux sont primordiaux dans les prises de décision. On sait que la viande demande beaucoup d'eau, d'énergie, prend beaucoup d'espace. Également, la production de viande libère beaucoup de gaz néfastes et qui participent au dérèglement climatique. Est-ce que la production d'insectes, quel sera son impact sur la planète, surtout lorsqu'on parle d'une production de masse? Est-ce qu'il y aura des points négatifs selon vous?
Oui, donc d'ailleurs, les insectes ont un faible impact environnemental et même on peut dire qu'ils ont un impact positif sur l'environnement. Parce qu'en fait, ils sont nourris de coproduits alimentaires. Donc ce sont des produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Par exemple, tels que le son du blé. Donc ils entrent dans le concept de l'économie circulaire. Et aussi les insectes, ils génèrent très peu de gaz à effet de serre et ils ont un taux de conversion alimentaire très faible. Ça veut dire que pour produire 1 kg de nourriture, ils ont besoin de manger 1,7 kg de nourriture. Par contre, le bœuf, lui, il a besoin de 10 kg de nourriture pour produire 1 kg. Et aussi les insectes, ils sont élevés d'une façon verticale, donc ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de grands espaces pour être élevés.
C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on a des mouvements tels que les végétariens ou les véganes qui émergent et donc qui ne mangent plus de viande, soit pour une raison environnementale, donc pour avoir un impact sur l'environnement le plus réduit possible, mais aussi ils ne mangent plus de viande par rapport à la maltraitance animale. C'est un sujet très important aujourd'hui dans notre société qui est beaucoup pris en compte. On peut souvent remettre en cause la façon dont on produit la nourriture et dont on respecte les animaux. Est-ce que vous avez réfléchi à cette question du bien-être des vers? Est-ce que, au contraire, ce n'est pas pris en compte parce que finalement c'est très petit et que finalement on peut se dire que dans notre quotidien, on tue plein d'insectes juste en marchant ou en conduisant une voiture?
Oui, jusqu'à ce jour-là, il n'y a pas d'études qui confirment que les insectes ressentent la douleur ou pas. Et en plus, il n'y a pas de législation qui précise des méthodes de mise à mort pour les insectes. Mais dans notre étude, on essaye que les méthodes utilisées soient assez rapides et sans souffrance, donc en quelques secondes, et donc c'est fait. Donc on essaye de réduire tant qu'on peut la maltraitance animale.
Et du coup, je pense que nos auditeurs se questionnent sous quelle forme les insectes ont-ils vocation à être transformés et du coup à être mangés. C'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à se représenter le fait qu'on va manger des insectes directement comme ça. Est-ce que les insectes que l'on pourrait manger seraient mangés vivants ou alors transformés d'une quelconque manière?
Oui, donc les insectes seront carrément transformés sous forme de poudre ou bien d'isolat protéique qui seront formulés dans d'autres produits tels que du pain, des pâtes, des biscuits, des burgers, etc. Donc non, on ne va pas manger des insectes vivants ou bien tels quels. mais plutôt on va bénéficier de leur avantage nutritionnel après transformation.
Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains pays, notamment les pays asiatiques, la consommation d'insectes est très importante. Comment on peut expliquer une telle différence dans notre façon de se nourrir, notamment dans notre rapport aux insectes? Aujourd'hui, on sait qu'en France, on n'imagine pas forcément bien, on a du mal à se projeter dans le fait de manger des insectes. Comment vous travaillez sur l'acceptabilité de vos produits? Est-ce que vous y avez réfléchi?
Oui, c'est une très bonne question. Alors, l'entomophagie, c'est-à-dire la consommation d'insectes, elle n'est pas très appréciée dans la plupart des pays occidentaux. Donc, la plupart des gens sont dégoûtés de l'idée de manger des insectes. Et aussi, ils associent cette pratique à un comportement primitif. Donc, en fait, l'origine du dégoût peut remonter à la culture, parce qu'en fait, le goût, c'est la culture. Et la culture aussi, elle a un impact significatif sur les habitudes alimentaires et sur la définition de ce qui est comestible ou non. Et aussi, donc la culture en elle-même, elle est influencée par l'environnement, par l'histoire, par la communauté du peuple, les activités humaines et aussi le statut économique. Donc pour cela, les habitudes alimentaires qui sont considérées « normales » entre guillemets dans certains pays, tels que la consommation des insectes dans les pays asiatiques par exemple, elle est vue comme bizarre et inacceptable dans d'autres pays. Donc, il y a eu plusieurs études sur l'acceptabilité des produits à base d'insectes dans les pays occidentaux. Et ils ont trouvé que la barrière psychologique à l'acceptation de l'entomophagie, elle est fortement influencée par le type de préparation gastronomique et aussi le niveau de visibilité des insectes dans la nourriture. Donc, pour augmenter l'acceptabilité des produits qui sont à base d'insectes, il faudra qu'ils soient, par exemple, formulés dans des produits qui sont familiers aux consommateurs et qui sont d'une façon non distinguée et non visible, parce qu'aussi, une des raisons des faibles intentions d'essayer des insectes sont liées à la peur d'essayer de nouveaux aliments, qui s'appelle néophobie alimentaire.
Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions, Madame Elage. Du coup, nous avons eu la chance d'avoir l'avis d'une chercheuse qui effectue actuellement sa thèse sur le domaine des insectes dans notre alimentation. Eh bien, je vous souhaite un bon courage pour la suite de vos recherches et on espère pouvoir goûter prochainement les innovations que vous parviendrez à faire.
Donc, vous venez d'entendre l'interview de Simon, de Madame LH, pardon, du coup, qui est une doctorante de l'UTC qui, on le rappelle, travaille sur la transformation des vers de farine pour la consommation humaine. Avant de passer à la partie 2, nous allons pouvoir débriefer. On va vraiment, toutes les informations qu'elle a pu nous dire sont très intéressantes. D'ailleurs, on espère que la suite de sa thèse se passera bien. Et c'est avec Mohamed et Léa que nous allons commencer cette partie 2. Juste après l'intermède, je vous retrouve à tout de suite.
Ça m'éclate les papilles et je suis plus heureux qu'un fou. Oh, j'adore les yeux d'or. Oh, mais plus encore. Oh, j'aime les dorifs.
Nous sommes toujours sur Radio Graphite 94.9 et je suis toujours votre présentateur. Bienvenue, nouvelle partie, et bienvenue aux nouveaux auditeurs et auditrices qui nous rejoindraient seulement maintenant. On vous rappelle rapidement le sujet, on parle de la consommation, de la future potentielle consommation des insectes par l'homme. Et tout de suite, nous allons écouter Mohamed qui va nous parler de l'acceptabilité, les considérations. Pourquoi est-ce qu'on ressent de la peine pour les gros animaux mais pas pour les insectes, Mohamed? Pourquoi?
Merci Quentin. Il y a une chose que personne ni vous auditeurs peuvent nier, nous avons tous déjà tué ou écrasé consciemment des insectes. Parfois car ils semblaient dangereux et nocifs pour notre corps, mais parfois juste comme ça, par peur vaine. On voit une araignée sur une pierre, on sait qu'elle n'est pas vulnérable, mais nous allons peut-être l'écraser par simple peur naïve que certains d'entre nous possèdent de cet insecte. Cependant, c'est pas pour autant que si nous voyons un poussin ou même un pigeon par exemple, même si nous pouvons avoir peur qu'il nous morde par exemple, jamais l'idée de lui faire du mal en le poussant avec notre pied nous viendra à l'esprit. Ou bien même, je peux citer le fait que nous, humains, sommes beaucoup plus sensibles à la violence animale qu'à une violence faite à un insecte. C'est assez abstrait comme exemple, mais la dernière fois, j'avais vu sur YouTube, qui est, comme vous le savez sûrement, un réseau qui supprime quotidiennement des vidéos de maltraitance animale publiées sur sa plateforme. Donc j'avais vu sur YouTube une vidéo d'une mouche scotchée à un mur avec des écouteurs, avec de la musique à fond, juste dans le but de faire rire une communauté. Et figurez-vous que cette vidéo a fait des milliers de likes, avec pratiquement aucun commentaire négatif qui relevait le côté choquant et dur à voir de la vidéo. Et pour couronner le tout, la vidéo est toujours disponible. Et vous vous imaginez bien les réactions que cela aurait causées si nous avions bloqué un chat contre le sol en lui agressant ses oreilles avec des sons très forts pour ses tympans. Bien sûr, la vidéo aurait été supprimée en moins d'un jour et aurait sûrement causé une plainte pour l'agresseur. Du coup, je me suis donc demandé pourquoi nous avons cette différence de traitement entre les gros animaux, pour lesquels on a de la peine quand ils se font maltraiter, et les insectes pour qui nous ne portons aucune consternation. Premièrement, je pense que nous avons de la peine pour les dits gros animaux, pour la simple et bonne raison que nous les trouvons pour la plupart d'entre nous plus jolis visuellement. Nous en prenons même certains en tant qu'animaux de compagnie. Moralement, notre cerveau leur donne donc une image gentille, invulnérable à cet être. De la même façon que nous ne voulons pas faire de mal à un nouveau-né, par exemple. Et même chez les insectes, certains comme les papillons ou les coccinelles sont beaucoup mieux accueillis que d'autres. Et ceci pour la seule raison qu'ils sont plus jolis à regarder. Et cet effet psychologique n'est pas seulement étudié pour notre rapport avec les animaux. Le fait d'accroître notre peine pour un être lorsque celui-ci est plus joli physiquement a même été un thème étudié dans la très sérieuse université Cornell de la Ivy League par M. Gunnell, qui est un docteur, et M. Cessy, qui est un professeur. Selon un résumé publié par ces derniers, la recherche psycholégale a montré depuis des décennies que les jurys, lors d'une audience juridique, ont un biais en faveur des personnes agréables à regarder. En moyenne, ces derniers écoperont de 22 mois de prison en moins affligés par un jury émotionnel. De plus, nous avons beaucoup moins de contacts humains avec les insectes et avec les animaux, donc forcément, plus on côtoie un être, plus nous souhaitons qu'il ne subisse aucun mal. Pour citer un exemple, demain si mon chat se fait écraser, j'aurai beaucoup plus de peine que celui qui l'a écrasé car cette personne n'a jamais côtoyé mon chat auparavant. Du coup, vu qu'on n'est jamais en contact humain volontaire avec un insecte, sa vie et celle d'un de ses semblables nous touchera beaucoup moins que celle d'un animal plus commun, comme un chien ou même une vache. Ils nous paraissent beaucoup plus amicaux. Pour continuer, je pense aussi que cette diminution, voire absence de peine que nous avons pour les insectes est aussi instaurée culturellement en nous. Je m'explique. Par exemple, nous avons tous quelqu'un dans notre famille qui a une phobie d'un ou des insectes. Donc lorsque vous êtes petit et que vous vous trouvez avec cette personne et qu'elle voit cet insecte, elle va mal réagir en criant ou en l'écrasant. Et cela fait, instinctivement, notre cerveau va appréhender cet être animal pour le futur. Et ceci, fait en masse sur Internet par des proches ou par sa propre famille, inculque en nous un manque d'empathie envers ces êtres vivants, car en étant jeune, on peut se dire « Tout le monde a peur de ces animaux, mieux vaut les éviter, voire les tuer quand on en croise pour éviter qu'ils me fassent du mal. » Et de là se crée une appréhension injustifiée envers les insectes. Pour finir, nous avons tout de même aussi des raisons beaucoup plus logiques d'avoir moins d'empathie envers les insectes, car ils représentent plus ou moins un danger pour nous, donc nous ne cherchons pas spécialement à les protéger. Par exemple, le rat n'est pas un insecte, mais pourtant nous n'aurons aucun mal à voir un rat utilisé dans une expérience à but scientifique, car dans tous les cas, ce rongeur est considéré comme sale et propagateur de problèmes pour le corps humain. Concernant les insectes, c'est d'ailleurs ce que souligne Stephen Kellert en 1993, dans son livre nommé The Biophila Hypothesis. Il explique justement que les insectes sont considérés comme dangereux dans la culture occidentale, car vecteurs de maladies, destructeurs, de produits manufacturés ou de plantes ornementales. Je vais maintenant laisser la parole à Léa qui vous expliquera pourquoi nous avons du mal à accepter d'avoir des insectes dans nos assiettes.
Merci beaucoup Mohamed pour cette intervention. Juste avant de débattre autour de l'acceptabilité, j'aimerais juste revenir sur des points que tu as dit qui me semblent très intéressants, et notamment sur la considération qu'on a des insectes dans notre société occidentale. Parce qu'il faut savoir que la considération qu'un humain fait envers un animal ou un insecte, par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment propre à notre culture et à notre apprentissage au sein même de notre société. Et je pense vraiment qu'il existe une réelle différence, par exemple, entre manger des insectes quand on vit en Asie et manger des insectes quand on vit en Occident, puisque notre culture envers ces animaux est complètement différente. Comme tu l'as souligné aussi, je pense que c'est intéressant de mettre en avant que Lorsqu'un être humain voit un insecte, il ressent majoritairement du dégoût, de l'aversion, et voit même l'insecte comme quelque chose qui pourrait provoquer des maladies, plus que lorsqu'il voit un animal. Et pour rebondir sur ce sujet, il y a une étude qui a été faite par Brett Swartz en 1995 et qui met en avant trois grandes ambivalences qui sont présentes dans la psychologie humaine et qui peuvent expliquer ce que ressentent les Occidentaux actuellement lorsqu'on leur parle de manger des insectes. En effet, il met en valeur les ambivalences entre la santé et la maladie, entre le plaisir et le déplaisir, et entre la vie et la mort. Et à travers ces trois grandes ambivalences, il essaye de comprendre pourquoi un occidental a du mal à manger des insectes, alors que pourtant, elle peut nous procurer déjà la vie, étant donné qu'un être humain a besoin de manger, donc ça nous procure forcément la vie, mais également la santé, puisqu'elle est source d'éléments protidiques et même lipidiques qui sont super importants pour la santé humaine. Mais il faut savoir aussi qu'au-delà de cette différence de considération, il est important de prendre en compte que l'acceptabilité est un élément qui est vraiment très important lorsqu'on parle du sujet manger les insectes. Et je pense qu'en écoutant l'interview, la chercheuse doctorante a également mis ce point de vue en avant et qui est même une source de débat qui peut être très important et même qu'on peut vous poser à vous, chers auditeurs et chères auditrices, parce que en effet, avec l'évolution des éléments démographiques, quand on annonce que d'ici 2050, on serait peut-être 10 milliards sur Terre, ou même avec les différentes sources de problèmes écologiques ou environnementaux qu'on peut subir actuellement, c'est sûr qu'il va falloir trouver des alternatives quant à notre alimentation, qu'on ne pourra pas manger des animaux jusqu'à la fin de nos vies, parce que ça demande des ressources très énergivores, ça demande de la place, et on n'en aura plus forcément dans quelques années. Mais est-ce que vous êtes vraiment capable, vous, de pouvoir manger des insectes? Est-ce que quand vous avez des insectes dans votre assiette, ça vous semblerait normal de manger des insectes? Et du coup, je pense que c'est très intéressant de mettre en avant le débat au sein de cette émission. J'aimerais rebondir du coup sur l'interview qui a été faite. Et je pense que la chercheuse a un point de vue très intéressant quant à la manière de permettre cette acceptabilité au sein de la société occidentale. Je pense que amener cette alternative dans notre vie quotidienne, elle se fait par deux moyens. Premièrement, l'acceptabilité, elle doit être faite par rapport à l'ensemble des machines et des outils qu'on va utiliser pour produire ces insectes. Je m'explique. En effet, je pense que les personnes qui arrêtent de manger de la viande quotidiennement ou alors qui cherchent à réduire leur consommation de viande, ce sont des personnes qui sont très intéressées par les impacts écologiques. Qui vont être d'ailleurs décrits plus tard dans l'émission, et qui sont également très intéressés par la maltraitance animale. Et pour pouvoir et permettre cette acceptation au sein de la société, il est important que cette alternative soit une alternative fiable dans laquelle on va pouvoir produire des insectes et pouvoir les élever ou même les tuer tout en respectant cette sorte d'éthique animale et en essayant de chercher des solutions qui sont beaucoup moins énergivores et dépensières de ressources pour la Terre. Mais je pense que la source d'acceptabilité la plus importante est aussi la manière de manger les insectes. Contrairement à un animal, je pense que, pas pour la plupart, mais en tout cas, il y a certaines personnes qui sont capables de manger des abats d'animaux, par exemple, tels quels, dans une assiette, et pourtant, ça ne leur pose pas de problème. Mais quand ces mêmes personnes sont face à des insectes, bizarrement, le contact face à ces insectes est complètement différent et le fait de manger va être beaucoup plus compliqué pour eux. La chercheuse a parlé des transformations de produits et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour pouvoir permettre cette acceptabilité. Je pense que pour manger des insectes, il ne faut pas les mettre tels quels dans son assiette, mais pouvoir les transformer en produits qui sont communs, comme on en mange maintenant, et voire même les utiliser dans les formules pour faire ces produits, comme si c'était une épice, par exemple. On pourrait les retrouver dans nos sauces, dans nos pizzas, dans nos hamburgers ou que sais-je encore. Et le fait de les mettre avec des aliments qu'on mange quotidiennement, ça pourrait permettre cette acceptabilité. Je pense aussi qu'elle peut également être mise en valeur à travers la manière dont elle va être présentée à la société. quand on va dans les supermarchés, on va dans des rayons, et pour pouvoir permettre cette acceptabilité, il est important de mélanger les produits qu'on fait à base d'insectes avec les produits qu'on mange quotidiennement, et les mélanger dans les rayons de pâtes, de riz, de légumes, de fruits, comme si c'était quelque chose de normal et du coup de très acceptable. Et aussi, au niveau de cette commercialisation, il faudrait aussi également qu'on arrive à mener les marques dans cet effort de nouvelles recherches d'alternatives. Je pense qu'actuellement, on vit aussi dans une société de consommation où les marques attirent beaucoup de personnes. Et si les marques arrivent à intégrer leurs insectes dans leur nourriture et dans leur formule de création de produits, cela pourrait permettre une meilleure acceptabilité au sein de la société. Mais ce débat reste quand même très ouvert parce que c'est vrai que c'est une alternative qui est importante étant donné les enjeux. Mais pour autant, il faut quand même que ça soit aussi des efforts personnels, que la psychologie individuelle de chacun intervienne pour permettre ces changements qui pourront être effectués. Et c'est vrai que c'est bien beau de pouvoir commercialiser ces produits, mais encore faudrait-il y arriver parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de faire maintenant. Et cette acceptabilité, elle doit tout d'abord passer par un apprentissage personnel en considérant que manger des insectes, c'est pas du tout synonyme d'aversion ou alors de dégoût, et que aux dernières nouvelles, il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent que les insectes sont vraiment porteurs de maladies lorsqu'on va les manger. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi un débat qui est important pour vous aussi, chers auditeurs et chères auditrices. Vous devez y réfléchir, parce que si un jour on a une alternative qui se met au goût du jour et qu'on arrive vraiment à la développer, faudra vous poser cette question d'acceptabilité. Je vais peut-être laisser la parole aussi à Quentin s'il veut rajouter un point de vue sur ce sujet.
Merci Léa. Je peux vous dire que ce qu'on a entendu avec Mohamed et Léa, c'était très complet. Beaucoup d'informations, et je pense que, chers auditeurs ou chères auditrices, vous êtes reconnus dans certaines phrases. C'est vrai que c'est vachement culturel, la consommation d'insectes, ou même le rapport qu'on a avec les animaux. Il ne faut pas du tout avoir un point de vue très occidental sur la question. Hein. Un exemple évident qui me vient en tête, c'est en Inde, où la vache, c'est sacré, et donc on ne consomme pas de cette viande, et alors qu'en Europe ou en Amérique, c'est tout à fait acceptable. Et le fait est que, comme le disait Mohamed, il y a un aspect aussi assez visuel, instinctif. On associe certains insectes à du venin, à des maladies, donc finalement à de la peur, finalement qu'on a développé des réflexes instinctifs qu'on a développés et qui sont finalement innés. Mais il y a quand même un impact sur notre éducation, sur la société. Et en fait, ces problèmes purement moraux qu'on a avec les animaux, c'est-à-dire est-ce que c'est juste de les manger, est-ce que c'est juste ou pas de tuer certains insectes, et bien ça, c'est extrêmement difficile de convaincre des gens avec, on va dire, de la pure morale, parce que déjà, il a fallu énormément de temps avant que cet aspect qui nous paraissait qui nous paraissait totalement normal. Je veux dire, à l'époque, quand je parle de l'époque, c'était il y a très longtemps, on consommait ce qu'on pouvait consommer. Par exemple, les animaux de compagnie sont là depuis un très long moment, on a des dans les cours royales, ils avaient des animaux de compagnie, etc. Mais le rapport qu'on avait n'était pas du tout le même. Aujourd'hui, en France et en Europe, nous avons des lois qui protègent les animaux, en particulier les animaux de compagnie, chiens, chats, etc. Mais il a fallu énormément de temps avant que cet aspect moral arrive finalement, change de dimension et devienne un aspect juridique. Maintenant, il est interdit de maltraiter, de torturer ou de faire du mal à un animal purement gratuitement. Et c'est vrai que cette réflexion pourrait se dire, si on le fait pour des animaux comme le chat ou le chien, et qui aujourd'hui nous semble évident parce que personne ne trouverait ça tolérable de frapper son animal de compagnie, alors pourquoi est-ce qu'on ne le transposerait pas dans toutes les espèces vivantes, finalement? Ça, c'est aussi culturel, hein, et c'est ça qui est bien avec notre émission, c'est que nous avons des étudiants qui nous viennent de l'étranger, qui donc ont un apport culturel différent, qui ne sont même pas en Occident, puisqu'on a Daniel qui nous vient du Brésil et Can qui vient du Vietnam, et c'est d'ailleurs, ça va être le sujet, puisque je vais lui laisser la parole dans très peu de temps, qui va nous parler du coup de comment cet aspect culturel a un impact sur la relation que nous avons. Donc on se retrouve tout de suite après ce court intermède pour la deuxième partie de cette émission. A tout de suite.
Ça m'éclate les papilles et je suis plus heureux qu'un fou. Oh, j'adore tes yeux d'or. Oh, mais plus encore. Oh, j'aime les dorifants. Croquons, avalons, tourons. Oh, les mignons papillons. Ça m'excite l'appétit. Au niveau diététique, rien ne vaut les moustiques. C'est sucré comme les fruits des tropiques. Plus doux que le miel.
Plus doux qu'une abeille. Plus doux qu'un
roudoudou. Plus doux que les fraises.
Oh, jolie punaise.
Je suis fou d'un fou. J'adore tes yeux d'or, mais plus encore j'adore.
Je corps des dorifants. Ton parfum de fraise à la crème anglaise. Ma jolie jolie pute.
Rebonjour chers auditeurs, chers auditrices, vous êtes toujours sur Radio Graphite 94.9 ou bienvenue à ceux qui viendraient de nous rejoindre. Alors je vous rappelle de quoi on parle. On parle tout simplement d'entomophagie, c'est la consommation des insectes par les hommes. On a eu le temps, donc ça fait environ une quarantaine de minutes que nous avons commencé l'émission, on a eu le temps de développer pas mal d'idées, pas mal de choses. Il y a eu l'interview de Madame Eljage, une doctorante de l'UTC, on a eu l'occasion d'entendre Thibaut, Simon et Léa qui ont tous rappelé des idées intéressantes sur pourquoi est-ce qu'on voit les insectes de manière différente, des aspects culturels, des aspects aussi de instinctifs. Voilà. Et du coup, bon, on avait vu que cet aspect culturel était franchement très, très important. Et comme nous sommes accompagnés d'étudiants étrangers, je vais laisser la parole à Can qui vient du Vietnam et qui va nous parler du coup de comment est-ce que c'est vu cette consommation des insectes en Asie. Bonjour Can.
Merci Clément. Au Vietnam, nous avons un plat que tout animal qui peut bouger peut être mangé. Mais bien sûr, des poissons. Il est vrai que les Vietnamiens utilisent les insectes comme une nourriture. Mais cette pratique est en train de diminuer considérablement, notamment dans les pubs et les petits restaurants. La consommation d'insectes trouve son origine dans les remèdes chinois en raison de l'influence culturelle vieille de 400 entre le Vietnam et la Chine. En médecine orientale, de nombreux sortes d'insectes sont utilisés comme des remèdes pour soigner des maladies. S'imprégner et améliorer la santé comme les cordyceps ou les grillons. Jusqu'à présent, ces remèdes de médecine orientale sont encore utilisés dans de nombreux endroits. On peut donc dire que manger des insectes au Vietnam est inhabituel, y compris les villages d'insectes. Parce que le Vietnam est un pays agricole avec nombre de cultures, c'est le meilleur de conditions pour que les insectes se reproduisent. Bon, donc, il est difficile à contrôler et ne garantit pas la sécurité et le développement économique. spécialité à Hanoi, la capitale du Vietnam, il existe encore des restaurants qui vendent du riz avec des poupées d'abeilles comme les plats traditionnels. Et ce plat est également très populaire auprès des touristes étrangers. Bien qu'il ait été un peu hésitant au début, quand ils ont vraiment essayé, tout le monde a aimé. Alors si quelqu'un a l'opportunité de venir dans la capitale de un autre pays, n'hésitez pas à essayer une fois. Et aussi, j'ai noté que Vietnam a une cuisine diversifiée, différentes méthodes de traitement et leur épicé peuvent transformer un plat en de nombreux types différents. Ainsi, même si on mange le même type de viande, il n'est jamais ennuyeux car le nombre de plats est innombrable. Ça vaut vraiment le coup de en profiter.
Merci Can pour ton intervention. C'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue d'un étudiant étranger qui n'a pas les mêmes codes culturels et qui donc peut nous apporter vraiment une vision totalement différente. Je ne vous l'ai pas dit, chers auditeurs, mais n'hésitez pas à aller liker la page Facebook graphite94.9. Du coup, on a pu voir un peu comment est-ce qu'on voyait tout ça au Vietnam. On a eu pas mal d'informations. Je vais laisser la parole à Clément et Daniel. Tout d'abord, Clément, qui vont nous parler des aspects écologiques, impact de la viande, parce que c'est très important dans le futur de penser écologie. Donc forcément, sachant que l'élevage des animaux fait partie de ces gros impacts carbone et très polluant, est-ce que Clément, l'aspect écologique, l'impact de la viande est si important, est-ce que ça va nous aider à résoudre le problème?
C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, quand on entend parler des gens qui deviennent végétariens, il y a deux arguments qui remontent principalement. Le premier, c'est la maltraitance animale, et le deuxième, ça reste l'aspect écologique. Et c'est vrai que pour la consommation et la production de viande, l'aspect écologique, il est très très important. J'ai noté quelques chiffres, selon l'Institut de sondage Statista, en 2021, ils ont référencé les trois plus gros producteurs de viande, qui sont les États-Unis, le Brésil et la Chine, avec des quantités assez impressionnantes. Et le problème, c'est que pour élever ces bêtes, il faut beaucoup d'espace. Bon, déjà, dans l'objectif, et si ces bêtes ne sont pas élevées dans des hangars de manière intensive, il faut des espaces pour qu'elles puissent paître et se nourrir. Et l'autre problème, ça va être que, en hiver notamment, elles ne peuvent pas se nourrir dehors, donc elles rentrent dans des hangars et elles mangent du fourrage. Et le problème étant qu'aujourd'hui, les chiffres varient selon les sites sur lesquels on regarde, mais il y a environ 75 à 80% des terres agricoles mondiales qui sont aujourd'hui utilisées uniquement dans un but de produire des céréales pour l'alimentation des animaux. Et donc c'est un chiffre qui est assez impressionnant. Et j'avais noté quelques chiffres, par exemple, dans le monde, 80% de la production de soja, 70% de celle de maïs et 70% de celle d'avoine servent uniquement à nourrir le bétail. Donc c'est quand même assez impressionnant, surtout quand on pense à la faim dans le monde notamment. Et selon ce même article, il disait que si on réduisait notre consommation de viande et qu'on laissait un peu plus de place aux cultures pour nourrir les hommes, on pourrait nourrir 2 milliards de personnes en plus, ce qui est quand même non négligeable. Un des deuxièmes aspects, ça va être la consommation d'eau. Pour élever les animaux. Par contre, là, sur ce point, il y a un débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux méthodes différentes pour compter la consommation d'eau nécessaire dans les élevages. Donc, on a d'abord la méthode Water Footprint qui mesure une empreinte d'eau virtuelle. Et la deuxième, ce n'est pas vraiment une méthode, c'est plus une norme. C'est la norme ISO 14046. Qui va mesurer, là, cette fois, la réelle empreinte d'eau consommée. Et il y a un débat parce que les chiffres donnés par ces deux méthodes, ils sont quand même assez éloignés. Avec la première, donc la méthode Water Footprint, on arrive à des chiffres qui nous donnent une quantité d'eau nécessaire pour produire un kilo de viande qui est de 15 000 litres d'eau. Donc c'est assez énorme. Mais dans cette méthode, ils prennent en compte trois types d'eau différents. Il va y avoir ce qu'ils vont appeler l'eau bleue, Donc ça représente 3-4% de ces 15 000 litres. Et donc l'eau bleue, ça va être l'eau qui va réellement être consommée par les animaux et qui va provenir des eaux captées dans les sous-sols, donc de l'eau qu'on puise, et là, dans un but de nourrir les animaux. Après, il va y avoir ce qu'ils appellent l'eau grise, donc c'est pareil, c'est 3-4%, et là, ça va être de l'eau, c'est un volume théorique, et ça va être l'eau qui va être nécessaire à retraiter et à maintenir une qualité d'eau optimale. Et enfin, l'eau verte, donc qui représente la majorité de l'eau utilisée pour définir ces 15 000 litres. Et donc, le problème, c'est que l'eau verte, c'est l'eau qui vient de la pluie et donc qui va être stockée dans les sols et qui, sous forme d'humidité ou d'évaporation, va pouvoir permettre de l'irrigation des champs, mais de manière naturelle. Et c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres qui sont assez énormes, sachant que du coup, pour l'eau verte, il n'y a rien qui est prélevé et qui est enlevé de ce que nous pourrions consommer. Et c'est pour ça que dans la deuxième méthode, la méthode ISO 14046, celle-là, elle va prendre en compte uniquement l'eau qui va être puisée pour nourrir ces animaux. Et donc là, on arrive à un chiffre qui n'est pas si impressionnant que ça. Par rapport au chiffre précédent, on arrive à 50 litres d'eau pour produire un kilo de viande. Et donc là, je vais laisser la parole à Daniel qui va nous parler aussi des conséquences, notamment au niveau des émissions de CO2 dues à la production et à l'élevage des bovins notamment.
Merci Clément. Bien noté ce premier aspect-là. Pour le deuxième aspect, comme Clément a dit, on peut parler un peu sur les émissions de CO2 et les effets sur les sols. Alors, la production de viande est responsable de l'émission de gaz polluants et accélère les effets du réchauffement climatique. Les animaux laitiers et des boucheries représentent 20% de la biomasse animale totale du monde. Selon les Nations Unies, ce secteur est à lui seul responsable de 18% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dépassant ainsi les émissions des véhicules. Le méthanol, principal gaz émis pour cette activité, provient de la coupe des forêts pour former des pâturages, par les ruminations et les fesses animales. Un autre fait important est que l'élevage provoque le compactage des sols et la libération de grandes quantités d'azote et de phosphore par les excréments des animaux, dans les cours d'eau. Aux États-Unis, par exemple, des études indiquent que 55% de l'érosion des sols et de la sédimentation des rivières sont causées par la bétail. J'ai trouvé quelques exemples pour montrer à vous aujourd'hui. Le premier, c'est que la production d'un seul kilogramme de viande bovine générait 32,5 kg de CO2. Pour l'agneau, le CO2 est estimé à 33 kg par kilogramme produit. Et en revanche, le CO2 est de 0,1 kg pour le soja et 1,18 kg pour le riz. Donc, contrairement au bétail, la plupart des insectes, comme les mites, les grillons et les sauterelles, n'émettent pas de méthane. Et ça, c'est essentiel d'éviter, à cause que le potentiel de réchauffement planétaire est 23 fois supérieur du méthane par rapport au CO2. Pour la même quantité de protéines produites, les insectes comestibles entraînent 100 fois d'émissions de gaz à effet de serre et consomment des dizaines de fois moins d'eau et de terres arables. Ainsi, un kilo de grillon rejette seulement 0,09 g de CO2 par jour. Et par contre, un kilo de viande de porc gère en moyenne 28 grammes par jour, c'est-à-dire qu'un porc de 100 kg rejette chaque jour 2,8 kg de CO2. Pour continuer, je passe la parole à Clément.
Donc, c'est vrai que tu viens de dire que pour une même quantité de protéines, les insectes qui génèrent beaucoup moins de CO2. Et donc, je vais parler, avant de reparler de l'aspect écologique, des apports nutritionnels des insectes, qui sont quand même assez importants. Et on retrouve notamment beaucoup de choses qui sont bonnes pour notre santé. Il y a notamment plein de vitamines dans les insectes.
des oméga-3, des oméga-6, des minéraux aussi. Et il y a également, on retrouve dans les insectes, qu'on ne retrouve pas dans la viande, des glucides. Donc ça, ça peut être un réel plus, notamment pour solutionner la faim dans le monde, par exemple, puisque l'insecte pourra, en plus des protéines, nous apporter une dose conséquente de glucides. Justement, en parlant des protéines, il faut savoir c'est que pour une même dose, non, on va dire, si on parle en pourcentage, le pourcentage de protéines dans les insectes est beaucoup plus important que dans la viande. Et bon, selon les études, les chiffres varient encore une fois, mais il y a environ 9 fois plus de protéines si on fait un rapport à la viande bovine notamment. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les protéines qui servent aussi à l'alimentation du bétail, ils proviennent majoritairement du soja. Et où est-ce qu'on produit le soja aujourd'hui ? C'est en majorité au Brésil. Et c'est pour ça que j'avais trouvé un article qui racontait ça. Pour produire toujours plus de soja, aujourd'hui, le Brésil déforeste l'Amazonie. On peut trouver ça étrange. On peut dire, c'est bizarre de vouloir déforester l'Amazonie juste pour produire du soja, mais le soja, il est aujourd'hui indispensable pour l'apport protéique, notamment pour les bovins. Et c'est pourquoi, dans l'article que j'ai lu, il disait que, à cause de... Si on raisonne avec les Français, à cause de notre consommation de viande par année, chaque Français contribue à déforester 16 mètres carrés de l'Amazonie, justement pour pouvoir produire ce soja. Donc sur ce point-là, les insectes, c'est quand même un sacré avantage. Et je crois que Daniel, tu as d'autres avantages à nous donner par rapport à la consommation d'insectes.
Oui, Clément. En fait, ces dernières données que tu as dit, c'est dur, hein. L'Amazonie, c'est à chaque jour plus et plus déforestée. Mais ok, on va continuer ici. Les autres avantages d'une transition alimentaire, c'est-à-dire l'ajout d'insectes dans l'alimentation humaine, peuvent apporter plusieurs bénéfices à l'environnement et aux générations futures. J'ai ramené quelques autres exemple ici. Par exemple, Clément a dit sur les protéines, mais il y a les situations aussi sur la quantité de nourriture qui est transformée en masse corporelle. Et ça, ça dépend fortement de la catégorie de l'animal. Par exemple, la production de 1 kg de masse corporelle La production de 1 kg de masse corporelle nécessite de 5 kg d'aliments pour les porcs et 10 kg pour les bovins, alors que seulement 1,7 kg est nécessaire pour les grillons. Ces données-là, c'était retiré de l'article de l'Organisation des Nations Unies « Insectes comestibles, perspectives pour la sécurité alimentaire et la nutrition animale ». Cet avantage est une partie due au fait que les insectes sont des animaux à sang froid et n'ont donc pas besoin d'énergie supplémentaire. Un autre aspect, si l'on ajoute à cela le fait que seulement 40% du bétail est comestible contre 80% pour les grillons, on arrive à une efficacité multipliée par 12 pour les grillons. De plus, pour une centaine d'espèces d'insectes, on peut compter sur une reproductibilité de 15 générations par an, d'où un gain de temps considérable. Un dernier exemple, c'est l'élevage d'insectes qui utilise moins d'espace. La production de 1 kg de protéines nécessite de 200 mètres carrés pour une exploitation bovine contre 15 mètres carrés pour l'élevage d'insectes. Pour finir cette partie-là, je voudrais dire la phrase de Arnaud Van Huy, il est entomologiste et spécialiste du sujet aux Pays-Bas. Le jour viendra où un Big Mac coûtera 120 euros et un Bug Mac, c'est-à-dire un McDo avec des insectes, coûtera 12 euros. Où les gens qui mangeaient des insectes seront plus nombreux que ceux qui mangent de la viande. Merci.
Donc, je vais prendre la parole en cette fin d'émission un peu pour conclure. Je commence tout simplement par remercier toute l'équipe pour tout ce que vous avez dit. Je pense que ça a été très intéressant pour les auditeurs. Et donc, pour revenir un peu sur l'émission, donc en fait, ce qu'on aimerait que vous reteniez, c'est que la principale barrière aujourd'hui qui empêche le développement de l'entomophagie, elle est culturelle tout simplement. C'est notre peur, notre dégoût, nos a priori qui nous empêchent, en tout cas dans les sociétés occidentales, de nous tourner vers les insectes. Ensuite, sans vouloir tenir encore un discours un peu culpabilisant et effrayant, il y a fort à parier que donner plus d'importance aux insectes dans notre alimentation, ça nous fera avancer d'un pas considérable vers la réduction de la faim dans le monde et devenir plus soutenable. Attention, on n'est pas encore à dire qu'il faille totalement délaisser la viande, qu'il faille totalement la remplacer par les insectes. Hein. Et il y a encore peu de chercheurs qui sont très, très en faveur de la suppression de la viande. Mais ce qu'il y a simplement, c'est qu'il faut revoir un peu les échelles de production de la viande, se tourner encore vers quelque chose de plus local et surtout revoir notre consommation, notre quantité de viande ingérée par jour et par semaine ne nous permet pas de limiter notre impact carbone annuel qui devrait, je le rappelle, être dans le scénario le plus optimiste qui nous permettrait vraiment de parvenir aux accords de Paris, d'être à 2 tonnes d'émissions d'équivalent CO2 par an, par français. Ensuite, comme on l'a vu avec Madame Elage, on peut tout à fait combler nos besoins en protéines avec les vers de farine, les grillons et les criquets. Et d'ailleurs, comme l'a un peu exposé Daniel, si on rapporte la quantité de protéines à la masse des insectes, elle est bien plus importante pour les insectes que pour le bétail classique. Pour finir, je voudrais quand même insister sur le fait que l'objet de cette émission n'était pas de vous convaincre de manger des insectes, mais bien de vous amener à un questionnement. Et surtout, vous aider à vous projeter dans ce futur qui est peut-être plus proche que nous le croyons. Mais vraiment, notre démarche, c'est une démarche d'ouverture d'esprit, voilà, tout simplement. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette émission. Je vous invite de nouveau peut-être à aller liker la page Facebook de la Radio Graphite 94.9 FM. Et puis... Je me permets de vous dire peut-être dans quelques semaines pour une nouvelle émission Les Échos des Innovations. Merci à tous. Au revoir.